Dernière fois, nous avons vu comment l'espérance possède une vertu en elle-même, une force purificatrice, et donc elle nous conduit elle-même sur un chemin de détachement. Plus on désire ardemment les choses du ciel, et plus on est libéré de la convoitise par rapport aux choses de la terre. Et nous avons vu aussi que, comme toujours dans la vie spirituelle, il y a une réciprocité, c'est-à-dire que nous avons aussi besoin de poser des actes de détachement pour laisser s'épanouir en nous le désir de Dieu. J'ai insisté sur le fait que ce chemin de détachement ne serait pas possible si notre foi ne nous permettait pas déjà de goûter quelque chose de Dieu. L'espérance est portée par la foi, on peut dire de deux manières, en tant que la foi est confiance, sur que espérer c'est attendre avec confiance, en se confiant en un autre, de qui nous attendons la réalisation de notre espérance. Mais croire, c'est aussi être en contact avec le mystère. Et donc, par la foi, nous sommes aussi fortifiés. C'est l'expression qu'on trouve en Romains 4, 20, où il est dit qu'Abraham fut fortifié par la foi. Ici, on peut simplement mettre en évidence aussi une distinction, c'est que la foi nous met en contact avec le mystère de Dieu, donc elle nous en nourrit déjà, et notamment à travers la parole de Dieu et à travers l'Eucharistie. Mais elle n'est pas la claire vision, donc on distingue, même on peut opposer de cette manière la foi et la claire vision, au sens où par notre entrée au ciel, eh bien, comme dit saint Paul, la foi disparaîtra pour laisser place à la claire vision. Nous n'avons pas la claire vision, mais nous possédons la substance. Vous avez retenu le terme que Benoît XVI a choisi pour traduire un mot grec qui a été sujet à maintes discussions entre théologiens. Que l'Épître aux Hébreux utilise pour dire que la foi est donc déjà une certaine manière de posséder les biens que l'on espère. Je rajouterai simplement que plus on goûte Dieu, plus nous possédons les prémices de l'Esprit, comme dit saint Paul au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et plus en même temps on gémit intérieurement, précisément parce qu'il manque la claire vision. Donc on voit ici que le fait que la foi nous mette en contact avec le mystère ne diminue pas la souffrance intérieure de l'âme qui aspire à voir dans la pleine lumière celui qu'elle attend et qu'elle aime. C'est une pensée qui est chère à Benoît XVI, que plus on se rapproche de Dieu et plus on le cherche. Et plus on cherche Dieu dans sa parole, et plus on a soif de le connaître davantage à travers cette parole, en expérimentant qu'il manque toujours quelque chose au rassasiement de notre âme. Ce quelque chose qui manque, c'est précisément la claire vision. Mais pensons que du fait que nous ne sommes pas dans la claire vision, comme dit saint Paul, notre salut est objet d'espérance, et voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce que l'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Le fait que nous ne soyons pas encore dans la claire vision nous permet de laisser donc, s'approfondir le désir, de laisser creuser le désir dans l'attente, et en même temps nous permet de donner à Dieu la preuve de notre foi et de notre confiance. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous la manière dont nous pouvons vivre dans l'espérance, dans un esprit d'espérance, notre rapport au bien de la terre. J'ai parlé du détachement la dernière fois. Je voudrais parler du rapport au bien dont nous avons besoin, dont nous éprouvons un besoin vital, selon les exigences de notre nature humaine. Nous sommes donc appelés à vivre notre relation à ces biens substantiels et fondamentaux, dans le détachement, c'est sûr, mais aussi dans la confiance que ces biens nous seront donnés par surcroît. Rappelez-vous les paroles de Jésus, le Père sait que vous avez besoin de cela. Il sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cela vous sera donné par surcroît. Je vais essayer ici de déterminer tout de suite ces biens essentiels. Jésus parle uniquement de la nourriture et du vêtement, en disant que c'est ça que les païens recherchent, la nourriture et le vêtement. Si on le prend simplement au sens de la nourriture physique et du vêtement, au sens matériel du terme, on ne peut pas dire que cette parole du Christ se réalise tout le temps. On ne peut pas dire que nous soyons toujours inquiets de la nourriture et du vêtement. En tout cas, nous prêtres, nous ne sommes pas inquiets de la nourriture et du vêtement, puisque nous sommes nourris, logés. Et donc, si nous voulons prendre l'Évangile au sérieux, cette nourriture et ce vêtement que recherchent les païens continuellement, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est vital pour nous, pour que nous puissions avoir la force humainement de continuer à vivre sur cette terre ? Par nourriture, je pense qu'il faut entendre essentiellement au niveau psychique le fait d'être en relation avec d'autres, le fait de pouvoir communiquer. On se rend compte qu'on a un psychisme qui a vraiment des besoins. Ces besoins, au fond de nous-mêmes, on les connaît. Besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de vivre la relation. C'est tellement vrai que vous remarquerez bien des personnes s'accrochent à des relations malsaines plutôt que de connaître le vide. Tout sauf le rien. Donc, c'est pas moins vital que la nourriture du corps. Et nous ne cessons de nous nourrir de ça tout au long de nos journées. Parfaitement, donc ici je me limite aux besoins fondamentaux tels que Jésus les résume, donc en deux termes. Parfaitement, si on en croit l'Apocalypse, passage dans l'Apocalypse où il est question des vêtements, il y a aussi la parabole, vous savez, où la personne se retrouve exclue de la salle des noces parce qu'elle n'avait pas le vêtement. Vous vous souvenez, hein? Et habituellement, dans nos prédications, on zappe. Hein? Parce qu'on ne sait pas trop, en plus, ça apparaît, je dirais, un peu rude quand même. Il te manque le vêtement, donc hop. Et écoutez l'Apocalypse au chapitre 7, verset 14. À propos de ceux qui viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc c'est un vêtement, notre vêtement, c'est ce qui a besoin d'être purifié par le sang de l'agneau. Et encore en Apocalypse, cette fois-ci 19, 8, à propos de la Nouvelle Jérusalem, on lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Donc, notre vêtement, c'est ce que nous faisons, ce que nous arrivons à réaliser, et par lequel nous trouvons une place, que ce soit dans l'Église, dans la société, dans notre famille. Et en réalité, nous n'arrêtons pas de chercher un vêtement qui nous convienne et qui soit beau à nos yeux et aux yeux des autres. Et je ne prends pas ça dans une manière négative. C'est le besoin d'une place. Jésus nous dit qu'il nous a préparé une place, et il nous a préparé aussi un vêtement nouveau qui sera le nôtre pour l'éternité. Une fois que tous nos vêtements sales auront été purifiés. Et donc, nous avons besoin d'être en relation et nous avons besoin de faire quelque chose de notre vie et de trouver un certain accomplissement à travers ce que nous faisons. Écoutez le Qohélète, même si on a du mal à rentrer dans sa logique qui paraît très terre à terre. Il n'y a de bonheur pour l'homme que dans le manger et le boire, et dans le bonheur qu'il trouve dans son travail. Et je vois que cela aussi vient de la main de Dieu. Eh bien, ici, mettons, entendons par bonheur, c'est Qohélète 2, 24, entendons par bonheur ce qui nous fait vivre humainement. Bon, et pensons que Jésus est venu nous apporter une autre vie, mais une autre vie qui est en même temps, quelque part, je dirais, dans la continuité, c'est-à-dire que nous espérons de nouvelles relations, une vraie communion des cœurs et des esprits, c'est ce que nous espérons. Et nous espérons aussi pouvoir porter du fruit, c'est-à-dire que nous puissions faire des œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et nous savons que nous serons aussi jugés sur nos œuvres et qu'elles seront notre gloire aussi pour l'éternité. Donc, tout cela est bien repris dans la perspective du royaume de Dieu. Mais cette communion des cœurs, cette communion des saints que nous espérons vivre, comme cette gloire qui est donnée par des œuvres qui soient lumineuses, qui soient vraiment des œuvres d'amour, eh bien, tout cela, nous le possédons en substance, quelque part, en germe, mais nous restons des êtres physiques et psychiques, et donc nous avons aussi, nous éprouvons le besoin aussi de relations, je dirais, concrètes, qui nous soutiennent, même si elles ne sont pas toujours dans l'ordre de la communion des saints, Mais malgré tout, nous éprouvons le besoin, un besoin, je dirais, tant que nous ne sommes pas pleinement rentrés dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de pouvoir communiquer, de pouvoir parler, de pouvoir pas rester sans rien faire, mais avoir la possibilité de réaliser quelque chose par un travail. Et Jésus nous dit qu'il sait que nous avons besoin de cela, connaît ce besoin humain, et nous demande de le vivre dans l'espérance, c'est-à-dire de chercher d'abord le royaume de Dieu, et de vivre donc un chemin de détachement même par rapport à ses besoins fondamentaux. Et de lui faire confiance donc quant à leur réalisation. Ici, je précise une chose. C'est qu'on peut avoir conscience qu'on a besoin humainement, par exemple, de parler, d'être écouté, ou disons de manière plus précise, prenons le cas d'une personne qui sent qu'il a besoin de se marier, elle a besoin de vivre dans le mariage, que sinon humainement elle ne va pas pouvoir tenir. On peut donc sentir qu'on a besoin d'une vie de couple, sans pour autant mettre son cœur dans cette vie de couple. La sagesse consiste à reconnaître nos besoins humains sans pour autant vivre un esclavage par rapport à ces réalités-là, au sens d'y mettre notre cœur, hein, et que ces réalités finissent par prendre la place de Dieu, c'est-à-dire que c'est la vie du monde qui prend la vie humaine, qui prend la place de la vie divine. Mais se détacher signifie pas nier ses besoins, mais les reconnaître plutôt dans un autre esprit, qui est un esprit d'humilité. J'ai frappé du témoignage du cardinal Van Thuan, qui a passé 13 ans dans des camps au nord Vietnam, et qui a dit que si de sa fenêtre de la cellule a passé 9 ans en solitude, s'il n'y avait pas une branche d'arbre lui permettant de voir les saisons, je pense qu'il serait devenu fou. Ça fait réfléchir parce que c'est quelqu'un qui a laissé le témoignage d'une grande sainteté. Et là, on touche du doigt les besoins. Mais il n'était pas attaché à la branche d'arbre. Vous comprenez ? Mais comme ça, sentir que vitalement on a besoin de telle ou telle réalité humaine, sans pour autant donc que ça nous empêche de ne désirer au fond de notre cœur que Dieu. Et je dirais ici, donc ce n'est pas une question d'attachement, hein, mais c'est une question de reconnaissance d'un besoin. Reconnaissance des lois naturelles, les accepter pleinement comme autant en fait de limites, qui fait que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des esprits incarnés, et Dieu nous demande de prendre soin de notre corps et de notre psychisme. Vivre chrétiennement, donc, c'est vivre dans cet accueil de notre humanité avec ses besoins que l'on apprend à connaître. Là, les sciences humaines peuvent nous aider. Et donc, et en même temps, chercher d'abord le royaume de Dieu, pas vivre dans l'inquiétude, mais penser que Dieu nous donnera toujours, j'allais dire, le minimum nécessaire pour que nous puissions tenir humainement. nous pouvons nous appuyer sur les promesses de Jésus, d'abord celle que le Père connaît ses besoins, et que si nous cherchons d'abord son royaume, il nous le donnera par surcroît. Personnellement, dans ma vie, j'ai toujours vu cette promesse se réaliser. Je me souviens d'un témoignage d'une prostituée brésilienne. Elles étaient avec plusieurs à s'être converties, mais elles restaient dans ce milieu de la prostitution parce qu'elles ne pouvaient pas vivre autrement. Et à un moment, elles se sont mises à prier ensemble pendant des semaines, des mois. Et leur prière, c'était « Jésus, si tu veux, sors-nous de là, mais il ne faut pas que ça te dérange. » Dans leur simplicité, elles pensaient que Jésus avait d'autres choses à faire que de s'occuper d'elles. Voyez, mais dans « Jésus, sors-nous de là », bon, ben, c'est le besoin humain parce qu'elles n'en pouvaient plus. Mais il ne faut pas que ça te dérange, tu feras comme tu voudras, comme tu voudras. C'est ça le royaume de Dieu. Ton règne vienne, ta volonté soit faite. Pensez plus à Dieu qu'à nous. Et elles n'ont pas attendu longtemps, hein. Elles ont été toutes exaucées. Toutes ont trouvé un travail, Donc, on a droit de penser à Dieu plus qu'à nous, mais on n'a pas le droit de refouler et de nier nos besoins, les reconnaître, les accepter et les présenter à Dieu, faire évidemment notre possible, mais dans un autre esprit que celui des païens, qui n'ont ni Dieu ni espérance, faire précisément dans cet esprit dans lequel on remet en définitive ses besoins fondamentaux à Dieu. Une autre parole de l'Écriture qui peut nous aider à garder confiance dans les moments où on a l'impression que Dieu ne donne plus le nécessaire, parce qu'en réalité, dans ce nécessaire humain, donc qui est autre chose que la manne spirituelle qui nous est donnée, hein, qui est la force de l'esprit, mais pour la force, je dirais, du corps et du psychisme, dans ce nécessaire humain, en réalité, c'est Dieu qui connaît les limites. Et en réalité, l'expérience montre, notamment auprès des malades, qu'on est capable de supporter plus de choses qu'on ne le pensait, avec la grâce de Dieu. C'est ici qu'on peut s'appuyer aussi sur 1 Corinthiens 10:13, hein, « Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. » Donc, avec les épreuves concernant ses besoins fondamentaux, il donnera la force pour les supporter. Il faut aussi nous rappeler que Jésus dans l'Évangile nous demande d'être prêts à perdre notre vie pour lui. C'est-à-dire que la satisfaction de ses besoins fondamentaux en même temps doit passer derrière le royaume de Dieu. Donc que nous soyons prêts à vivre des moments de passer des moments de solitude, ou des moments d'impuissance, d'inutilité, de les traverser avec Jésus comme une manière de perdre notre vie. Ça, c'est lui qui sait, et c'est lui, c'est pas nous qui devons nous mettre dans des situations telles, mais c'est lui qui peut vouloir nous faire passer par là jusqu'au martyr. Alors, dans ce chemin-là, quel est le combat? Le combat, il est celui de la confiance en la providence de Dieu, qui fait que nous pouvons donc réellement garder notre cœur tourné tout entier vers les réalités du ciel, tout en faisant notre possible, mais sans donc nous laisser prendre par l'inquiétude et la peur de manquer. Et sur ce chemin-là, nous rencontrons la tentation profonde qui s'appelle la cupidité et qui s'oppose directement à l'espérance. Et c'est par rapport à cette cupidité que je vous invite à méditer. On peut dire qu'il y a deux grands pôles de tentation. Il y a la tentation qui est du côté de l'orgueil. Donc c'est poursuivre un idéal de soi dans lequel on pourrait se complaire, chercher à s'élever soi-même pour trouver sa joie en soi. Donc ici, il y a, je dirais, il y a une erreur fondamentale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas faits pour nous regarder nous-mêmes, nous sommes faits pour regarder Dieu. Rechercher sa perfection propre au lieu de rechercher Dieu lui-même. Ça, c'est, on peut dire, le plus grand piège, mais le péché qui est la racine, nous dit le catéchisme du Concile de Trente, de tous les péchés. Mais il y a un autre pôle qui est la cupidité, plutôt l'esprit de possession. Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Alors ici, on peut distinguer, vous voyez, deux choses. Il y a la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. C'est-à-dire les besoins vitaux d'un homme. La satisfaction de ses besoins vitaux n'est pas assurée par ses biens. Ce qui est en jeu, c'est d'assurer sa vie, nourriture et vêtements, sens physique et psychique. Elle n'est pas assurée par ses biens. Ce qui est ses biens, c'est ce que l'on peut accumuler. Ce que l'on peut accumuler pour être sûr de ne jamais manquer. Jamais manquer de nourriture, de relations affectives. Jamais manquer de vêtements, de reconnaissance, de place. Donc vous voyez, c'est autre chose la cupidité et l'esprit de jouissance. Il y a des gens qui vraiment ont un besoin d'amasser des richesses, notamment aussi d'amasser de l'argent, il faut bien le dire. Mais il n'y a pas que les richesses matérielles. Il y a des personnes qui ont besoin d'amasser qui ne sont pas particulièrement jouisseurs. Et en réalité, la cupidité est plus grave que l'esprit de jouissance. Pourquoi la cupidité, on pourrait dire aussi, bon, certaines avarices, mais c'est plus profond et c'est plus large que l'avarice, c'est le besoin de posséder, d'avoir un trésor auquel on amasse. Jésus le dit bien, ne vous amassez pas, n'amassez pas de trésors sur la terre. C'est ça la cupidité. Mais parce que on cherche à avoir une assurance en soi par cette possession, par lequel donc on peut par soi-même satisfaire les besoins vitaux. Je vais prendre un exemple. Une famille qui a de l'argent, qui achète une belle et grande maison de campagne. Pourquoi elle achète la grande et belle maison de campagne? C'est pas parce qu'elle aime spécialement la campagne, ni même la maison. C'est parce qu'elle pense pouvoir ainsi réunir tous ses enfants. Parce qu'elle vit de cette relation, de ses relations familiales. Donc on achète une grande maison, comme ça on pourra tous se retrouver. On amasse des biens pour satisfaire un besoin vital qui est le besoin de relations. Oui, mais vous voyez le piège. Non? C'est que donc ce besoin vital de relation n'est plus vécu dans la dépendance à Dieu et par rapport à la recherche du royaume comme quelque chose qui nous est donné par surcroît. Et ça fait partie de la vertu de l'espérance que de l'attendre de Dieu. Mais c'est quelque chose que donc nous voulons assurer par possession. En ayant un appui en soi-même. Saint-Louis-Marie de Montfort a deux expressions très belles et qui donc confirment, qui parlent de la purification de l'esprit, enfin, il ne parle pas de purification de l'esprit comme tel, mais il parle des purifications profondes que la Vierge Marie veut nous aider à vivre en étant la confiture des croix. Enfin, vous connaissez ces expressions. Hein, donc, pour nous aider à vivre et à vivre avec plus de facilité, disons, de douceur, les purifications les plus profondes. Dans ces purifications les plus profondes, il y a deux termes. Il parle d'une quasi imperceptible complaisance en soi, ça c'est l'orgueil. Quasi imperceptible appui en soi, ça c'est lié à la cupidité. Et donc on ne dépend plus de Dieu parce qu'on a peur de manquer et qu'on n'a pas assez de confiance et que aussi finalement, on en arrive, comme je vais vous le montrer, à se faire piéger, parce que qu'est-ce que nous dit Jésus? Ne vous amassez point de trésors sur la terre, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Parole un peu énigmatique. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est-à-dire que tu vas amasser des biens pour assurer tes besoins vitaux. Tu penses comme ça assurer ta vie. Tu penses même pouvoir le faire en tant que chrétien, parce qu'il faut être réaliste et qu'il faut bien faire ce qui dépend de nous. Et donc, si on a de l'argent, pourquoi ne pas en profiter? Et en profiter pour assurer donc ce qui nous semble vital pour nous humainement à assurer. Et Jésus nous dit, attention, là où est ton trésor, là où est ton cœur. C'est-à-dire, sans vouloir, tu mets ton appui dans ces choses-là, tu t'appuies sur cette possession, et du fait même que tu t'appuies là-dessus, en fait, tu y mets ton cœur. C'est-à-dire tu y mets ta confiance et finalement tu y mets ton espérance. Et tu n'as pas eu l'intention de te détourner de Dieu, mais de fait, tu es sur le chemin de te détourner de Dieu. « La cupidité est une idolâtrie, dit saint Paul. Colossiens 3:5. S'oppose directement à l'adoration, s'oppose à l'espérance. Et on peut dire d'une manière très proche, ça s'oppose à l'adoration, au sens que adorer Dieu, c'est se reconnaître dans la dépendance totale à Dieu. Et là, l'homme veut sortir de cette dépendance en assurant lui-même sa vie, ses besoins vitaux. J'espère que vous percevez bien qu'ici, ce n'est pas une question d'attachement par mode de jouissance. On aime beaucoup le chocolat et on est très attaché. On ne va pas accumuler les boîtes parce que ça se conserve pas si bien que ça. Bon, ça c'est pas... Évidemment, ça encombre, ça encombre quand même cette recherche de petite jouissance immédiate. Ça, en fait, ça appesantit le cœur et ça gêne la prière et ça gêne l'espérance. Mais c'est une tentation moins profonde, c'est moins redoutable que la cupidité. Fait que notre cœur lui-même vraiment est pris comme un lacet, dit saint Jean de la Croix, c'est comme un lacet qui tient l'esprit en la terre et ne lui laisse dilater le cœur. Ici c'est le livre 3, le chapitre 20 de la montée du Mont Carmel. Sachant, la croix explique que quand on se désapproprie, celui-ci, en tant qu'il n'en a pas une au cœur, c'est-à-dire en tant qu'il n'y met pas son cœur, c'est-à-dire en autant qu'il n'y met pas sa confiance et sa sécurité, les a toutes en grande liberté. Celui-là qui y a lié sa volonté n'a et ne possède rien en réalité, dit saint Jean de la Croix. Tant s'en faut, ce sont ces réalités qui possèdent son cœur et le tiennent par conséquent à la peine comme un captif. Ça fait penser au cas d'une famille qui avait précisément voulu acheter une maison de campagne comme ça, mais ils n'avaient pas beaucoup de réalité. Ils ont eu les yeux plus grands que le ventre et ils ont acheté une maison et ils n'ont pas fini de faire des travaux. Et donc, en fait, ils se retrouvaient dans la peine à passer tout leur week-end à préparer la maison de leur rêve pour se retrouver tous en famille, mais en attendant, c'est en travaux depuis des années. Comme un lacet, tient le cœur en peine. Eh oui. En tant qu'idolâtrie, la cupidité donc nous abaisse l'homme et va amener aussi. En même temps que notre cœur se laisse prendre, puisqu'il met sa confiance en autre chose que Dieu, va amener toutes sortes d'un développement de toutes sortes de passions, ici je reviens à la première épître de Timothée au chapitre 6. Écoutez, voyez, le fait de se laisser prendre par ce besoin d'amasser. Écoutez saint Paul, nous n'avons rien à porter dans le monde et de même nous n'en pouvons rien emporter. 1 Timothée 6, 7. Lors donc que nous avons nourriture et vêtements, il reprend l'enseignement de Jésus, sachons être satisfaits. Nourriture et vêtements dans le moment présent, autant que notre nature humaine en a besoin. Quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège de l'idolâtrie en fait. Dans une foule de convoitises insensées et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Mais prenons l'argent au sens large, l'amour de la richesse elle-même, qui nous permettrait donc d'assurer notre vie. Pour s'y être livré dans leur cœur, donc pour être tombé dans cette idolâtrie, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. L'Écriture dit encore: maudit l'homme qui se confie, littéralement se sécurise, dans l'humain, qui fait de la chair son appui et dont le cœur s'écarte du Seigneur. Ben, c'est inévitable. Il est comme un charbon dans la steppe, il ne se ressent rien quand arrive le bonheur. C'est Jérémie 17, 5, 6. Mais l'Ecclésiastique, chapitre 14, verset 9, dit encore explicitement: la cupidité dessèche l'homme. Cette image du charbon dans la steppe, c'est l'image d'un cœur qui se rétrécit en fait, qui se dessèche par rétrécissement, et qui, dans ce besoin donc d'assurer par lui-même sa vie, sa survie, physique et psychique, eh bien, s'éloigne de la foi, de la confiance et de l'espérance, et donc ne laisse pas de place à la grâce qui est comme la sève vivifiante, qui fait que nous ne desséchons pas, mais qu'au contraire, nous sommes vivifiés par Dieu de l'intérieur, que nous pouvons porter du fruit. Aussi, nous pouvons comprendre qu'en réalité, notre cœur ne peut être en paix que quand il repose en Dieu, que donc cette recherche d'un trésor sur lequel nous pourrions nous appuyer ne laissera jamais notre cœur en paix. Ici, je vous rappelle les paroles que nous avons déjà lues dans la parabole de cet homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, qui se demandait en lui-même: que vais-je faire car je ne sais pas où recueillir ma récolte? Puis il se dit: voilà ce que je vais faire, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. C'est toujours cette idée d'amasser, de pouvoir amasser. J'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, voyez ici, il ne s'agit pas de manger son blé et ses biens, il s'agit de le recueillir pour jouir d'une sécurité. On ne jouit pas des biens, on jouit de la sécurité que nos biens, nous pensons que nos biens nous apportent. Et je dirai à mon âme, c'est ça que je veux dire à mon âme, en définitive, qu'est-ce que je recherche? Je recherche à pouvoir dire au fond de moi-même: mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi. Tu es en sécurité. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Ce que tu as amassé, qui l'aura? C'est là que je vous rappelle l'expression de saint Augustin qui dit que celui qui dit « j'ai assez » est un homme mort. mort par l'idolâtrie. Donc on peut y perdre son âme. C'est pour ça que Saint Paul, l'Épître à Timothée, parle d'un chemin de perdition, de ruine et de perdition. Et ça rejoint l'enseignement du livre de la sagesse concernant l'idolâtrie, qui dit que le culte des idoles, c'est Sagesse 14, 27, le culte des idoles, son nom, est le commencement, la cause et le terme de tout mal. Et vous voyez, il n'y a pas comme idole, il n'y a pas que des statues de faux dieux, mais il y a la richesse matérielle, et d'autres formes encore de richesse qui sont plus subtiles et qui peuvent nous procurer aussi de faux appuis. Mais avant d'aborder cette autre forme de richesse, je pense à une autre forme particulière de richesse. Je voudrais vous rappeler ce que enseigne le catéchisme, c'est-à-dire que le cœur est la source d'où jaillit le mouvement des passions. On comprend mieux ici, dans la lumière de la question de la cupidité. La cupidité, la vraie cupidité, c'est la cupidité du cœur. C'est le cœur qui met sa confiance dans son trésor. Donc, il s'éloigne de la confiance en Dieu. Mais de là, comme l'explique saint Paul à Timothée, jaillissent toutes sortes de convoitises. On n'en a jamais assez. Mais aussi, pour assurer ce trésor, qui ne sera jamais suffisant, eh bien, on tombe dans toutes sortes aussi de recherches, hein, tout tourne autour de cette idole. Et c'est là que, je dirais, on est envahi par toutes sortes de passions. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les desseins pervers. À partir du moment où le cœur est idolâtrique, bien forcément, ça aboutit à toutes sortes de, comme le dit saint Paul, hein, de désirs insensés. Cette cupidité du cœur, saint Pierre en parle aussi dans sa deuxième épître, au chapitre 2, où parle de ceux dont le cœur est exercé à la cupidité et qu'il compare à des animaux sans raison. C'est-à-dire aussi, il y a un aveuglement, une insensibilité. Ça rejoint l'enseignement donc de saint Jean de la Croix, qui dit, à propos de celui qui chemine donc dans la désappropriation, il acquiert une liberté d'esprit et clarté en la raison, un repos, une tranquillité et paisible confiance en Dieu. Avec un culte et une vraie soumission à la volonté envers lui. Il acquiert aussi plus de joie et de récréation en les créatures, s'en désappropriant, de laquelle récréation l'on ne peut jouir, les regardant avec un attachement de propriété. C'est là qu'il dit que parce que c'est un souci lequel, comme un lacet, tient l'esprit en la terre et ne lui laisse dilater le cœur. En outre, se détachant des choses, il en acquiert une plus claire connaissance pour bien entendre les vérités qui les concernent. Tant naturellement que surnaturellement. C'est pourquoi il en jouit tout autrement que celui qui est attaché avec de grands profits et avantages, car l'un les goûte selon leur vérité, l'autre selon leur mensonge. L'un selon le meilleur, l'autre selon le pire, l'un selon la substance, l'autre qui attache le sens selon l'accident. La cupidité obscurcit l'esprit. Elle appesantit l'esprit, le cœur, mais en même temps elle obscurcit l'esprit, elle le laisse incapable de voir les choses dans leur vérité, et elle le rend capable en réalité d'en jouir d'une vraie jouissance, c'est-à-dire en atteignant la vraie bonté des choses. C'est pour ça qu'on trouve des gens qui, plus ils amassent, moins ils jouissent de ce qu'ils amassent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La capacité à jouir diminue au fur et à mesure qu'on laisse cette idolâtrie prendre notre cœur. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte. En même temps qu'on se laisse prendre par les choses de la terre ainsi, eh bien, en même temps, on devient en réalité incapable d'en recevoir la joie que Dieu voudrait nous donner à travers ces choses si nous savions les recevoir de lui. En esprit de désappropriation, comme dirait saint Jean de la Croix. Et donc il y a des personnes qui sont dans cette idolâtrie et qui se laissent prendre par toutes sortes de convoitises. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son terme enfante la mort. C'est pour ça que l'expression de saint Paul qui dit qu'à partir de la cupidité, on est plongé dans la ruine et la perdition, nous pouvons la prendre au sérieux et nous rendre compte qu'il y a là donc un chemin auquel on n'est pas toujours attentif parce que cet esprit de cupidité, voyez, est moins visible que l'esprit de jouissance de gens qui recherchent la jouissance immédiate, et que ça peut aller de pair avec une vie apparemment honnête. Je voudrais simplement souligner, pour terminer, qu'il n'y a pas que la cupidité par rapport à des biens matériels, mais il y a aussi cette idole que peut-être le savoir, comme l'a dit Benoît XVI quand il est venu en France. Je crois que ce n'est pas pour rien que cette expression a été prononcée dans la ville de Paris. L'idole du savoir, en pensant qu'il y a une richesse que nous pouvons posséder dans les greniers de notre mémoire, et par laquelle nous pouvons penser assurer notre vie. Et la désappropriation, elle est aussi donc par rapport au savoir, à la connaissance, pour que nous puissions vivre dans l'espérance notre ouverture à la lumière, à la vérité. Je ne développe pas plus, je vous invite à méditer simplement que le savoir peut être une idole. Et je terminerai en vous rappelant que Jésus s'est fait pauvre. Il a voulu vivre pauvrement pour nous libérer de la cupidité. Et c'est aussi en le contemplant dans sa pauvreté, dans sa petitesse, dans sa dépendance totale au Père, dans sa dépendance à la providence divine, que nous pouvons retrouver le goût d'une vie plus sobre, d'une vie dans laquelle on renonce à cette assurance, retrouver la joie de dépendre de Dieu en tout.